De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains donc pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, nous n'avons pas pu encore voir les Frères Sisters, le dernier Audiard, tout comme nous avons manqué Climax à Cannes, hein, le dernier Gaspard Noé, on se rattrapera eh bien la semaine prochaine, mais on a quand même pu voir d'autres films en salle depuis le 19 septembre, Marine.
Oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de deux comédies françaises, Première année de Thomas Lilti et Le Poulain de Mathieu Sapin, et les deux étant assez réjouissantes.
Et Le Poulain nous donnera l'occasion d'entendre Alexandra Lamy,
qui joue dedans.
L'actrice, et puis eh bien, le réalisateur Mathieu Sapin en interview. Et puis eh bien, Manu, qui n'est pas là avec nous pour cette présentation d'émission, sera quand même là. Il nous parlera eh bien, d'une séquence horrifique avec la nonne et d'un film en costume, celui d'Emmanuel Mouret avec Mademoiselle de Jonquière. Quant à moi, eh bien, j'ai pu voir deux films alors placés vraiment sous l'angle du froid. Hein. Il y en a un qui se déroule en Russie, c'est Dovlatov, excellent film d'Alexei German. Et puis un autre film qui lui se passe à 2000 mètres en Suisse. C'est Fortuna de Germinal Rohe. C'est Cinérama qui débute.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Et on commence donc avec Première année de Thomas Lilti. Première année vient clôturer la très intéressante trilogie de Thomas Lilti consacrée au monde de la médecine. Il y a eu Hippocrate qui suivait un jeune interne face à ses désillusions. Il y a eu Médecin de campagne avec François Cluzet, le sujet est dans le titre. Et donc Première année qui raconte la rencontre entre Antoine et Benjamin, deux étudiants en première année de médecine. Benjamin est issu d'une famille aisée, il a clairement des facilités à apprendre, à assimiler des connaissances. Tandis qu'Antoine lui a déjà redoublé deux fois sa première année et prend tous les jours le train pour rentrer chez ses parents en lointaine banlieue. Pour les deux, le même challenge, finir dans les 200 premiers au concours de fin d'année, dans une promo qui compte de plus en plus d'inscrits. Et pour cela, il va leur falloir apprendre par cœur une quantité d'informations totalement inutiles.
Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa? Demande-leur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand?
On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûter, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable.
T'en dis quoi?
Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir.
C'est acquéreux ce pressage de jour.
Le mieux, c'est de faire des annales, franchement.
Faut qu'on devienne des machines à répondre aux questions. Hein.
Et la fac? Ça va?
Phosphoglucomutase.
Non mais sérieux.
3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir. Soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain.
Thomas Lilti, qui est médecin, peut être réalisateur, connaît bien son sujet. Il porte sur le monde de la médecine, dans sa globalité, un regard très sarcastique, voire cynique à travers ses films. Ce qui est intéressant dans son cinéma, c'est qu'il porte également un regard très sensible sur l'humain. Et les médecins, croyez-le ou non, hein, sont des humains avant tout, malgré ce qui est dit par William Lakebill dans la bande-annonce. Dans un univers où la compétition fait rage, les deux étudiants vont être soudés et s'entraider. Cette bromance, comprenez une histoire d'amitié entre deux mecs, va évidemment servir de prétexte à dépeindre ses études de médecine, leur élitisme, leur brutalité et leur ambiance si particulière, puisque dans les amphis, on passe assez rapidement d'un cours sur les mitochondries polynucléaires à chanter en chœur la bite à Dudule. Dans un espace-temps où il n'y a pas de place pour des histoires d'amour, Thomas Lilti raconte une très belle histoire d'amitié, tout en dépeignant avec humour et sincérité un système universitaire totalement absurde. L'écriture est très fine, tout en subtilité, et côté réalisation, eh bien, la patte de l'auteur est là, sans tomber pour autant dans une mise en scène ostentatoire. Première année repose également sur un duo d'excellents comédiens. qui partagent la même particularité. Ils arrivent à transformer leur nonchalance, voire leur mollesse, hein, on peut le dire, en un certain charisme. Vincent Lacoste, qui tenait le rôle principal dans Hippocrate, affine encore un peu plus son jeu. Et William Lake Bill campe un personnage eh bien, à première vue un peu fade, mais alors qui s'avère complètement passionnant. Et je pense qu'il est un sérieux candidat, non pas pour la deuxième année de médecine, mais pour le César du meilleur espoir masculin. Oui, j'y vais, je fais des pronostics.
Mais
déjà.
En tout cas, c'est ce qu'on va noter. Et on va terminer avec la bite à du... Non. Évidemment, non. Et sans transition, on va écouter maintenant Manu qui a pu voir eh bien, le 9e long métrage d'Emmanuel Mouret qui a décidément quitté son univers burlesque.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Mademoiselle de Jonquière est l'adaptation libre d'un extrait de Jacques le Fataliste de Diderot qui avait déjà inspiré Robert Bresson pour Les Dames du Bois de Boulogne. Alors l'ombre de ce dernier n'a rien d'écrasant, Mouret ne cherchant jamais à lui rendre hommage ou à se référer. Bresson situait son récit dans un univers contemporain alors que Mouret se frotte pour la première fois au film d'époque, étant de ce point de vue plus proche du roman. Alors Madame de la Pommereille est une jeune veuve recluse, vivant loin de l'agitation du monde. Elle se refuse à l'amour, préférant jouir de sa condition de femme seule. Elle est néanmoins courtisée par le très volage marquis des Arcis qui multiplie les conquêtes et elle finit par céder à ses avances, touchée par sa sincérité, pensant qu'il a réellement changé. Alors au bout de quelques temps, suspectant sa lassitude, de Pommeret le met devant le fait accompli, faisant semblant de ne plus être amoureuse. Le marquis avoue aussi son désamour, la séparation la bouleverse, ruminant alors le sentiment d'avoir été dupée. Elle décide alors de se venger en utilisant les charmes d'une prostituée, Mademoiselle de Jonquière, qu'elle fera passer pour une sainte aux yeux du marquis. Elle met donc en place un plan machiavélique dans le but de faire souffrir l'homme qu'elle a aimé. Mais les événements prendront alors un tour plus inattendu, car c'est parfois en voulant faire souffrir que l'on souffre davantage. Petite morale cruelle, mais jamais moralisatrice.
Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes?
J'ai bon espoir.
Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis?
Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive, et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous?
J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche.
Ne vous fiez pas aux premières impressions de ce début laborieux qui donne l'impression d'assister à une performance de comédien cherchant à épater la galerie, enchaînant les bons mots dans un ping-pong verbeux trop brillant pour être honnête. Alors Cécile de France et Édouard Baird n'existent d'emblée que comme comédiens, talentueux certes, et non comme des personnages à part entière. Et puis, rapidement, la crainte se dissipe, le récit magnifiquement écrit et construit prend son envol et on se passionne pour ce marivaudage classique en apparence qui demeure le meilleur film d'Emmanuel Mouret à ce jour. Alors l'auteur de l'excellent Changement d'adresse aborde le film en costume en éludant les écueils et coquetteries inhérentes à ce genre d'entreprise, soit une tendance à en mettre plein la vue. La fragilité de son cinéma pouvait se perdre dans un dispositif encombrant. Or, Mouret a l'intelligence de ne pas s'attarder sur les décors, les costumes, les toilettes des dames. Il mise davantage sur l'épure, faisant preuve d'une sobriété parfois déconcertante, à l'image de la représentation du marquis qui porte quasiment les mêmes vêtements pendant tout le film. Alors, une étrangeté assumée amenant le film vers un ailleurs, loin de tout réalisme un peu rococo et de psychologie convenue. Mademoiselle de Jonquière va à l'essentiel, s'en tient à son histoire de vengeance, sans jamais vouloir nous détourner l'attention vers des sous-intrigues superflues.
Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas ça?
Pour moi, le compte n'y est pas.
Je crains cependant que votre entreprise soit excessive.
Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté.
Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je forcerai leur porte, je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis.
Cette sorte de thriller aristocratique nous emporte d'abord grâce à la puissance des mots, à cette habileté d'enchaîner les dialogues pétillants, pleins de malice et de sous-entendus. La parole en mouvement perpétuel crée des espaces de liberté singuliers pour peu que l'on fasse attention. La circulation de cette parole à travers des postures, des manigances, des confidences et des non-dits prend néanmoins le risque d'asphyxier une mise en scène qui pourrait se contenter d'aligner des champs contre champs lors de ces affrontements, ou pire, de faire virevolter une caméra pour faire cinéma. Mais l'intelligence de Mouret est de ne jamais oublier de faire du cinéma avant tout. Dans ses comédies à la limite du burlesque, il filmait des personnages intelligents, très à l'aise avec la langue de Molière, mais ayant du mal à s'intégrer dans l'espace physique. Des corps gauches, en but avec leur environnement, devenaient alors source d'un comique visuel proche des films de Billy Wilder et surtout de Black Edwards. Dans son nouveau film, c'est un peu la même chose, le burlesque en moins. Il filme des postures et impostures physiques, toujours en mouvement à l'écran, investissant un espace étouffant, notamment pour les intérieurs, ou apaisant dans la nature. La discrète précision de la mise en scène s'accorde avec la fluidité de cette intrigue aussi pathétique que déchirante. C'est un peu par la gestuelle pas très bien assurée du marquis, hein, toujours d'ailleurs les mains dans les poches, que l'on éprouve sa sincérité, que ne remarque pas la marquise blessée dans son orgueil de femme meurtrie. Alors en voulant se venger, elle s'isole davantage, se blesse elle-même. Le cinéaste ne juge pas, car quoi qu'on en pense de son personnage, elle n'agit que par amour, et au final c'est très émouvant. Alors on est assez éloigné de la perversité de Madame de Montreuil dans Les Liaisons Dangereuses, Cécile de France, hein, qui est littéralement transformée et offre sa plus belle composition, la plus riche et nuancée. Alors face à elle, Édouard Baird est un peu en retrait, fait ce qu'il sait faire, mais il le fait très bien. Au final, un excellent film, certainement, à mon sens, le meilleur film de Emmanuel Mouret.
Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société ?
Mademoiselle de Jonquière est en salle depuis le 12 septembre maintenant, eh bien, direction la Russie.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Il y a plusieurs manières de voir la Russie, soit sous son jour lumineux, baigné par la lumière de l'été, comme dans L'Étau, le formidable film présenté à Cannes cette année sur la figure des rockstars avant la chute de l'Union soviétique, film qu'on verra en décembre, soit eh bien, on reste dans le froid, aux prises avec le gel et la neige. C'est le parti pris d'Alexei German Junior, puisque son père s'appelait pareil, qui, avec Dovaltov, nous plonge en hiver à Leningrad, qui, comme personne ne l'a oublié, est devenu Saint-Pétersbourg et l'était avant. Nous ne sommes pas au début des années 80, mais en 71, dans une période assimilée au dégel. Et nous sommes aux côtés d'un écrivain majeur de la Russie, Sergueï Dovlatov. Cet homme est peu connu en France, mais est devenu très lu à titre posthume. Il lui aura fallu émigrer aux États-Unis, que le dégel laisse place à la perestroïka pour qu'enfin eh bien, le peuple russe puisse lire sa prose. L'une des particularités de ce film, qui fonctionne comme un biopic, et en empruntant le nom de l'écrivain, eh bien, ça ne trompe personne, eh bien, c'est de ne pas s'attacher à nous raconter la vie de Dovlatov, de sa naissance à sa mort, mais de prendre 6 jours de sa vie à Leningrad. 6 jours qui nous permettront d'avoir un instantané de la période soviétique et particulièrement de la manière dont la société traitait ses artistes eh bien, à cette époque. Car si les questions de Dovlatov, on apercevra également son ami le poète Joseph Brodsky, qui deviendra plus tard prix Nobel. Et le lot de tous ces artistes à qui on reprochait eh bien, soit d'aimer le jazz, Pollock ou Nabokov, eh bien, c'est d'attendre d'être publié. Chaque jour, la même interrogation. Et pour certains, eh bien, la tentation de partir ou pour d'autres de résister. C'est l'attitude de Dovlatov dont le travail consiste à être journaliste et à rendre compte de comment le pays va bien. Hein. Là, le réalisateur eh bien, nous régale à l'image du poète Dovlatov qui s'amuse à se présenter comme Kafka. Eh bien, on plonge dans l'absurde à l'occasion d'un reportage sur un chantier où sera bientôt inauguré un bateau. Alors certains ouvriers sont pour cette occasion déguisés en écrivains glorieux de la Russie, Gogol, Dostoïevski ou encore Tolstoï. Et Dovlatov eh bien, ne se démonte pas et interviewe ses personnages jusqu'à l'absurde pour mieux affirmer le grotesque de la situation. Alors ce qu'on lui reprochera hein, une fois son papier écrit. Une autre fois, il est envoyé sur le chantier du métro de Leningrad où un charnier de la Seconde Guerre mondiale est découvert. Là encore, le passé ressurgit comme s'il ne pouvait jamais être tout à fait absorbé et comme si la nouveauté, incarnée par exemple par ces artistes, eh bien, ne pouvait pas déboulonner ce passé. Évidemment, on est aux prises avec la bureaucratie qui est seule juge de ce qui peut être publié ou non. Et l'atmosphère est doucement étrange ou amèrement banale pour un pays soviétique dont on connaît le pouvoir de censure. Alors l'une des qualités de la mise en scène d'Alexei German est de nous laisser entrevoir les relations de Dovlatov, cet homme grand qui a l'envergure d'un acteur de cinéma, au milieu des bureaucrates, des femmes qu'il côtoie, de ses amis ou de ses homologues artistes. La caméra, souvent en mouvement, nous laisse aussi entendre certaines conversations comme si l'écrivain était perdu dans la masse, un camarade parmi tant d'autres. Alors autant nous voyons la mainmise de la bureaucratie, du KGB, autant nous voyons aussi eh bien, la relative liberté dont pouvaient jouir ces artistes qui, s'ils ne commettaient aucun crime, hein, finalement ne risquaient pas grand-chose, si ce n'est de voir leur talent s'étioler et leur résignation prendre le dessus. Alors, on perçoit le combat intérieur de Dovlatov, conscient de tout ce qu'il a à écrire et qu'il ne peut publier. Le personnage, en fait, est parfois à l'arrêt, pensif, quand le réalisateur nous donne à entendre ou voir ce qui se passe autour de lui. Dovlatov est une vraie réussite formelle et esthétique. Pour ceux qui aiment la reconstitution, eh bien, les séquences qui se déroulent dans les appartements communautaires laissent imaginer l'ambiance qu'on y trouvait, de même que les ambiances dans les rues de Leningrad, une ville que l'on voit souvent ombrageuse, frappée par le froid et la neige, baignée d'une couleur légèrement jaunie, nous plaçant d'emblée dans une époque révolue. Et pour en revenir à mon introduction par rapport au film de Kirill Srebrennikov, L'Étau, qui sortira en décembre et qui raconte une période où la lutte était plus facile et les outils de contre-pouvoir davantage tolérés, eh bien ici le ton est quelque peu glaçant. D'autant plus qu'on sait que le dégel durera un petit moment et que Dovlatov, l'écrivain, hein, sera finalement contraint de s'exiler, ce qui lui permettra d'être enfin lu. Dovlatov d'Alexei German, excellent film, est en salle depuis le 12 septembre.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Et c'est la partie interview de cette émission, Marine.
Oui, et on passe donc au Poulain, le premier film de Mathieu Sapin. Arnaud se verrait bien partir au Canada, créer une ONG avec sa copine. Mais à la suite d'un enchaînement de quiproquos, lui qui n'y connaît absolument rien en politique, se retrouve assistant de Agnès Karadzic, responsable de la campagne électorale d'une candidate aux primaires. Tyrannique, narcissique et totalement arriviste, Agnès use les stagiaires les uns après les autres quand elle ne couche pas avec, parfois les deux en même temps, et va pousser Arnaud, à force d'humiliation et de manipulation, à oublier sa fibre humanitaire pour devenir un véritable requin comme elle. Car comme le rappelle le savoureux personnage interprété par Philippe Catherine au début du film, la politique est un milieu, je cite, bourré de phéromones. Si les dernières élections présidentielles vous ont donné envie de jeter votre carte d'électeur à la poubelle, Le Poulain vous donnera sans doute l'impulsion nécessaire pour passer à l'acte. À travers le personnage de Agnès Karadzic, que joue Alexandra Lamy, ce sont mais alors tous les travers de la politique, hein, qui sont représentés, les mensonges, les trahisons et les changements de camp. C'est féroce, c'est mordant, c'est assez jubilatoire et en même temps donc bien c'est totalement déprimant hein, quand même, faut le dire. Le Poulain, c'est le premier film de Mathieu Sapin, auteur de BD dont une notamment qui est excellente consacrée à Gérard Depardieu et sobrement intitulée Gérard et que je vous recommande même si vous n'aimez pas Depardieu. Mais ce sont deux autres BD hein, qui ont inspiré le film Le Poulain, Campagne présidentielle et Le Château. On retrouve justement dans le film beaucoup de références à la BD, le film est très graphique, c'est un parti pris visuel assez intéressant car les films qui traitent de politique sont souvent assez austères et puis le fait de l'avoir tourné en partie dans le sud de la France ajoute un côté lumineux qui est plutôt bienvenu. Dans l'ensemble, pour ma part, le film est assez réussi, je ne sais pas ce que t'en penses Vincent, mais il manque quand même un peu de rythme et de vraies surprises. C'est presque un genre de film à part entière, vous savez, ces films où on suit un novice qui finit par dépasser le maître. Et à ce niveau-là, eh bien, quoique fort agréable à regarder, le film s'avère quand même assez attendu dans son écriture. Pour ce qui est de la distribution, Finnegan Oldfield est comme toujours très bon. Et Alexandra Lamy, à contre-emploi, est très crédible. Moi, je commençais un petit peu à perdre espoir en ses capacités, en ses talents de comédienne. Et là, elle s'en sort très bien. Le rôle lui sied comme un gant. Et on va justement l'écouter au micro de Cinérama en compagnie de Mathieu Sapin.
Arnaud, la France, ça t'intéresse ?
La France ?
C'est sérieux la politique. Je me prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire.
Bah, je parle quatre langues quand même.
Oui, mais Catherine, elle fait sa campagne en France. Et en français, du coup.
Mais je parle français aussi.
Elle a envie de rentrer au gouvernement, donc elle a de l'ambition, donc elle va tout faire pour y rentrer. Donc je la déteste pas non plus, parce qu'il faut quand même toujours un peu aimer ses personnages. Hein. Même si, effectivement, oui, elle fait pas de cadeaux, ça c'est sûr. Je voulais pas en faire une femme complètement antipathique. D'abord parce que je me dis que ça serait pas possible, elle pourrait pas en être là pour être complètement, si elle était vraiment antipathique, surtout pour une femme, je pense que... Donc, et je pense que c'est, encore une fois, pour moi c'est des gens passionnés, donc je pense qu'effectivement quand elle se prend un coup, je pense que ça lui fait vraiment mal. Et donc je voulais que ces moments-là, quand elle est sur la plage, ou même à la fin, même si évidemment elle va pas pleurer, etc., parce qu'elle va le montrer, mais je voulais quand même qu'on sente qu'elle... C'est dur pour elle. C'est pas. C'est pour ça que je voulais pas en faire quelqu'un de complètement. Même si elle est traitée de frigidaire, mais elle est traitée de frigidaire par une femme d'ailleurs, par une autre femme. Mais j'aimais bien l'idée quand même qu'elle soit quand même pas sensible, mais qu'elle est oui, qu'elle est humaine aussi. Donc elle a forcément des. Puis elle a envie de ça.
Agnès,
mais qu'est-ce que tu foutais ?
La nana, elle a eu un.
Mais me raconte pas ta vie, je m'en fous. Espèce de cocole.
J'aime pas trop quand on m'appelle gogole. Hein.
Dans ma bouche, c'est affectueux.
Moi, je connaissais pas du tout le milieu politique avant de tout d'un coup pouvoir observer ça. Donc moi, s'il y a un point commun, c'est celui-là, c'est celui de quelqu'un qui est extérieur à ce milieu, qui ne s'y intéresse pas plus que ça, et qui, par hasard, par le concours de circonstances et de rencontres, devient un spectateur privilégié et se prend au jeu. Et c'est vrai que moi, la campagne présidentielle de 2012, tout d'un coup, je me suis mis à... Voilà, je dormais plus, quoi. C'est-à-dire, je m'étais mis sur Twitter, j'étais tout le temps à l'affût de la moindre info. Il y a plein de choses que Arnaud vit dans le film, que j'ai vécu moi. Je te rappelle, et puis on ne te rappelle jamais, ou des trucs comme ça. C'était aussi ça que le producteur voulait, c'était qu'on retrouve ce qu'il y avait dans la BD, cet esprit-là, cet esprit des petites anecdotes qui racontent en même temps beaucoup.
On avait dit du papier écolo, non? Il est tout blanc et tout lisse.
Justement, on a réussi à éliminer le côté gris dégueu du papier biodégradable classique.
Pour les gens, biodégradable, c'est forcément gris et dégueu. Là, on perd tout l'impact.
Bah, je vais pas le teindre en gris, quand même, non?
Pourquoi pas? J'en sais rien, moi, Sally, mais gère-moi ça.
Mais je voulais certainement pas faire un film angélique. Je voulais montrer quand même une réalité, que c'est un milieu, comme tu dis, où on se fait pas de cadeaux et on peut être très affable, mais impitoyable. Mais en même temps, je voulais surtout que ce soit des humains et montrer que c'est... On a tendance à voir les hommes et les femmes politiques un peu comme des robots impitoyables. Moi, je voulais montrer qu'il y a une forme de dureté, des personnages très déterminés, mais qui, en dessous, sont hésitants, ont des crises de doute. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils sont quand même en maîtrise et en contrôle la plupart du temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de montrer les moments où ils sont plus en contrôle, où ils sont libérés. C'est pour ça que dans le film, je voulais montrer les coulisses, mais aussi des expressions où on retrouve une forme de naturel. On les voit fumer, par exemple.
La politique, un milieu bourré de phéromones.
On peut voir le film comme un conte où Philippe Catherine est une espèce...
C'est des personnages quand même qui existent, Philippe Catherine.
Oui, mais je veux dire, on peut raconter l'histoire comme un conte de fées, quoi, où il y a Philippe Catherine qui est une sorte de magicien, de sorcier, de diable, qui projette le personnage dans l'histoire et qui s'amuse un peu avec lui. Et on a la femme fatale, on ne sait pas si c'est une sorcière ou c'est un peu comme dans les... chez Ulysse, c'est une espèce de femme qui est un peu manipulatrice et puis qui est le charme. Et puis effectivement, il y a plein de figures, il y a le roi, comme Philippe, et comme... Pascal Prenoir, etc. Ouais.
Et la France, elle attend que ça, d'y aller, de la prendre comme ça, de lui mettre son tarif, tu vois, comme un homme.
Donc, vous avez un rapport quand même très libidinal à votre pays. Hein.
Voilà, nous écoutions Mathieu Sapin, le réalisateur de Le Poulain, et puis Alexandra Lamy, l'actrice du film, a noté que... Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un film plutôt bien documenté. Alors, effectivement, peut-être que ça manque de rythme parce qu'on s'attend à une comédie encore plus drôle, mais il y a quand même des personnages hyper intéressants, notamment celui de Philippe Catherine. Mmh. On ne sait pas ce qu'il fait là, cet homme.
On ne sait pas ce qu'il est.
Ça fait partie des intrigants qu'on trouve dans la politique, et donc il y a quand même un côté très documenté avec lequel s'amuse Mathieu Sapin. Voilà, le Poulain, c'est en salle depuis le 19 septembre, tout comme La Nonne.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
J'ai eu plusieurs visions quand j'étais plus jeune. Et après chacune d'elles, la même pensée restait dans ma tête.
Qu'avez-vous vu ?
J'ai vu une nonne.
Le prologue et l'épilogue justifient la filiation de La Nonne, production de James Wan, en intégrant des extraits de Conjuring, faisant le lien avec les personnages de parapsychologues chasseurs de démons, Lorraine et Ed Warren, même si certaines images semblent avoir été modifiées. Alors, le suicide suspect d'une nonne dans une abbaye perdue quelque part au fin fond de la Bulgarie suscite la stupéfaction au sein du Vatican, qui décide d'envoyer le père Burke afin d'élucider le mystère de ce curieux décès. Il est accompagné par une jeune nonne, sœur Irène, qui n'a pas encore prononcé ses vœux. Les deux ecclésiastiques, curieusement aidés par un franco-canadien qui a découvert le corps, vont mener l'enquête et affronter une puissance maléfique, brouillant la perception de leur réalité en matérialisant leur propre peur. Alors, cette idée est déjà présente dans des œuvres comme La Galaxie de la Terreur, petite série B des années 80, ou le récent Le Rituel, une production Netflix, n'a rien de novatrice mais demeure la part la plus intéressante d'une histoire assez inepte qui n'exploite guère cette part phobique du récit contaminant la psyché des personnages. Et là, ces enjeux sont bien moins complexes, réduisant un début alléchant en un simple combat primaire entre des défenseurs du bien face aux forces du mal. Alors, nos valeureux représentants de l'Église ne sont que des enveloppes vides, des silhouettes sans aucune épaisseur, très vite éclipsées par un décor beaucoup plus fascinant. Et que penser de ce Français, en fait un Canadien, on apprendra plus tard, évidemment coureur de jupons, qui semble s'être échappé d'un autre film, apportant alors une touche d'humour aussi incongrue que lourdingue. La médiocrité d'ailleurs des comédiens n'arrange évidemment pas l'affaire.
Et on m'a demandé d'accompagner un prêtre dans une abbaye en Roumanie.
Cette abbaye a une longue histoire.
Valak.
Pas toujours heureuse.
Quoi ?
Fini Lecter. Dieu s'arrête ici.
Ce ratage en amont est d'autant plus regrettable que James Wan s'est fendu des services de Corinne Hardy pour réaliser cette énième émanation d'une franchise qui commence à sentir non pas l'eau bénite mais la vase. Alors, cet Irlandais est l'auteur d'un excellent film d'épouvante, le très atmosphérique Le Sanctuaire, délire païen assez fascinant. On retrouve alors au détour de quelques séquences le talent du cinéaste qui fait ce qu'il peut pour rendre attractif un récit qui frise le néant à plus d'une reprise. Et miracle, il y arrive par intermittence, insufflant à cette nonne, hein, qui n'a rien à voir avec le film du même nom de Luis de la Madrid, petit slasher anecdotique, un parfum gothique typiquement européen, loin de la rigidité des productions horrifiques américaines. Alors, sans doute conscient des limites du projet, hein, il lâche la bride dès qu'il en a l'occasion, basculant du côté du bis italien, voire même des productions déjantées de Charles Band, à l'orée des années 90 qui étaient tournées dans les pays de l'Est. Alors c'est en surfant alors du côté de la série Z, hein, plutôt soignée, que le film trouve son intérêt, prenant alors des allures de train fantôme jubilatoire. Corinne Hardy se prend alors pour Mario Bava et s'amuse comme un fou avec ses plans nimbés de brume et d'images bleutées, multipliant les effets de style étranges, hein, des cadrages ralentis et les accessoires visuels très codifiés comme les corbeaux ou les crucifix. Alors quelques geysers de sang très graphiques et des effets spéciaux ratés mais généreux dérident l'univers programmatique et puritain de James Wan, qui semble avoir laissé carte blanche au réalisateur sur le plan formel. La mise en scène élégante et stylisée sublime un décor splendide, seul élément réellement anxiogène d'un film quand même gâché par une progression neurasthénique d'une intrigue vraiment simpliste. S'il ne s'était pas laissé aller à des jumpscares épuisants et une bande-son convenue avec ses éternels effets sonores crispants, Corinne Hardy aurait pu tirer le film vers le haut. Malheureusement, la nonne, en dépit de son joli vernis puis de quelques fulgurances visuelles éparses, finit quand même par devenir assez pénible.
On passe de l'horreur à l'horreur économique et politique avec un film qui s'appelle Fortuna.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
J'ai toujours pas de place sans foyer pour toi. Mais j'ai trouvé une famille qui serait prête à t'accueillir.
Je veux rester ici.
C'est pas un endroit pour toi ici. Je t'ai déjà expliqué.
La thématique de l'immigration et plus précisément de la présence des immigrés en Europe est reprise par le cinéma, essentiellement le cinéma d'auteur, qui voit là l'occasion de creuser un récit humaniste ou simplement de documenter une situation politique ou les deux. Et avec Fortuna, du Suisse Germinal Roho, on prend le chemin de la fiction et on laisse de côté le documentaire. Le réalisateur a d'abord l'idée de placer Fortuna, une jeune éthiopienne de 14 ans qui a fui son pays, dans un monastère. Alors lui, le monastère planté à 2000 mètres dans les Alpes suisses, où elle a été accueillie avec d'autres réfugiés. Là-bas, on y voit la douleur de l'arrachement et le calvaire qu'a pu être sa traversée de la Méditerranée. Mais tout en nuance, hein, le réalisateur livre les cauchemars de Fortuna, choisissant les ombres et les formes plutôt que des images claires et identifiables pour figurer un voyage périlleux en bateau. Alors dans ce monastère, on voit surtout le secret et la douleur qu'elle porte et son amour pour un autre réfugié bien plus âgé qu'elle. Et cela aura des conséquences, hein, cette histoire d'amour. Le personnage de Fortuna est une petite femme, plus qu'une petite fille, très épris de la Vierge. Ses plus fidèles compagnons sont des animaux, dont un âne. Donc là, c'est une référence un peu trop évidente à la nativité. Et puis, eh bien, elle passe aussi un temps assez long avec les prières.
Mais avec toutes ces années passées ici, à réfléchir sur la vie, sur l'homme, j'ai réalisé que parfois notre vision de ce qui est bon ou juste ne l'est pas forcément pour l'autre.
Vous connaissez comme moi le parcours de tous ces gens, traversés sur une espèce de rafio, une arrivée sans rien. C'est ça la réalité de Fortuna aujourd'hui. Elle n'a plus rien. Plus rien du tout.
Le réalisateur suisse plonge Fortuna dans un univers blanc et glacial et l'enferme alors de manière très étonnante dans une image 4 tiers, donc une ancienne image télévision on va dire, en noir et blanc, avec des paysages somptueux qui s'approchent du sublime. C'est-à-dire qu'il surligne l'inquiétude et les tourments du personnage autant qu'il figure la dureté des choses ou leur éternité. Le film avance doucement et sa construction n'a rien de simple, hein, d'autant qu'aux interrogations du personnage solitaire de Fortuna, eh bien, le réalisateur nous laisse entrevoir les interrogations des chanoines de la congrégation du Grand Saint-Bernard. Cet ordre qui chérit le silence et la retraite spirituelle se retrouve à questionner finalement ce nouveau monde dans lequel ils sont plongés. Que faire des migrants qu'ils accueillent et peuvent-ils seulement continuer à les accueillir? Cela nous donne des dialogues ouvrant sur la réflexion philosophique et politique sans tomber dans l'idéologie.
Est-ce qu'on est prêt à sacrifier une partie de ce qui nous est le plus cher? Notre silence et notre solitude.
Alors, ces discussions qui livrent des pistes de réflexion sur la question des migrants sont emmenées par le chef de la congrégation, interprété par Bruno Ganz, qu'on vient d'entendre. Hein. L'acteur suisse emblématique de l'univers de Wim Wenders parvient à tirer encore vers le haut ce récit qui aurait pu être plus pesant. Mais des allers-retours incessants entre la fixité de la nature, les tourments bien réels de la jeune femme et le confort intellectuel des chanoines font de ce film de Germinal Roh une œuvre de cinéma qui, malgré sa thématique et ses sujets, hein, les religieux, les migrants et les montagnes, eh bien, s'éloigne de l'austérité en questionnant habilement une réalité politique. Voilà, bah, je vous recommande ce film qui est en salle depuis le 19 septembre.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, Cinérama revient avec une interview, celle de Fawzi Ben Saïdi pour Volubilis. Et toi, Marine ?
Et moi, je vais vous parler du nouveau Gaspard Noé, Climax.
Et on aura sûrement vu le film de Jacques Audiard.